la femme artiste dont on va parler à l'instant, Bharti Kher, qui a grandi à Londres et qui œuvre maintenant à New Delhi. Ben oui, on va parler de cet artiste-là dans le cadre de son exposition en cours au DHCR. Et c'est une exposition titrée Bharti Kher, les points qui lient et les points, points de départ et points qui lient. Alors, à m'accompagner Pierre Archambault qui a vu pour nous, nous avons vu tous les deux cette exposition qui est vraiment d'intérêt, là, qui utilise une nouvelle source d'inspiration.
Elle fait de la récupération beaucoup. Moi, c'était une...
Nouveau pour nous, mais ancré dans la tradition en Inde.
Ça a été une véritable découverte. Ouais. Je ne connaissais pas du tout cet artiste et j'étais vraiment ébahie par son travail. Elle a fait des études en Polytechnic School of Art à Londres.
Oui.
Et elle a fait son bac en peinture. Et ensuite, elle est déménagée en Inde en 1991. Et c'est là qu'elle habite depuis dans la capitale nationale. Son travail est un travail très imbu de la culture indienne. Oui. Et elle parle évidemment beaucoup des femmes indiennes. Alors, si on se situe dans l'étage supérieur, c'est-à-dire au quatrième étage de DHC, on arrive devant cinq femmes assises sur un banc. Mm-hmm. Elles sont nues, elles sont de différentes... elles ont des corps différents et on voit que ce ne sont pas de jeunes femmes, ce sont des femmes d'un certain âge, entièrement blanches, puisque c'est le plâtre nu qu'elle a utilisé. Ce sont les moulages.
Des moulages de femmes, le quartier défavorisé.
Quand on connaît cette technique-là, c'est assez pénible pour les gens qui sont moulés parce que des heures, le temps sans bouger et on entre des pailles dans le nez pour pouvoir respirer avec ces masques. Alors, ce sont des prostituées, en fait.
Oui.
Qu'elle a...
De différents âges.
Qu'elle a loué, littéralement, pour cette expérience-là. C'est une sorte d'hommage, en fait, qu'elle rend à ces femmes de classe inférieure et qui sont obligées de faire la prostitution pour survivre en Inde.
Mais d'autre part, ça a créé certains... C'est ce qu'elle expliquait, c'est ce qui est expliqué dans le communiqué de presse, c'est ce que l'artiste expliquait, ça crée un certain malaise, cette façon de... cette approche.
Ben oui, c'est assez cru. Et moi, ça m'a rappelé beaucoup les années 60 avec l'artiste américain George Segal, qui a été le premier à utiliser comme ça des moulages en plâtre sur des personnes vivantes. D'ailleurs, il y a une installation importante dans le sous-sol du Musée des Beaux-Arts à Montréal, de George Segal, qu'on peut voir. Je l'ai vu justement la semaine dernière. Alors, si on passe à l'étage, au troisième étage, là, il y a toute une série de cartes géographiques sur lesquelles elle a collé des milliers de beads. Enfin, les beads, ce sont les points que les femmes placent entre les deux sourcils. Et à l'origine, ça indiquait le rang social, le statut social de chaque femme, si elle était mariée ou célibataire ou vierge. Mm-hmm. Les couleurs changeaient. Et maintenant, c'est devenu un peu une mode. Et ces points-là qui autrefois étaient faits avec des pigments de couleur, maintenant ce sont des papiers collants, en fait, découpés en cercle, que les gens utilisent. Et même certains hommes, maintenant, peuvent porter ces beads-là.
Donc, c'est une technique qu'on nomme binky, hein, ça, ces points-là, ces différents points-là?
Non, je crois pas. Il y a bindu.
Bindu, c'est ça.
C'est l'origine du terme bindi. Alors, ce sont des collages, en fait, où souvent elles superposent deux ou trois couches de couleurs différentes de ces bindi et de grandeurs différentes aussi. Et tout ça pour un peu dérouter ou défaire les propositions géographiques qu'il y a sur les cartes, parce qu'elle raconte que à l'origine, les cartes étaient totalement déformées puisque on passait d'une forme circulaire qui est celle de la Terre à un aplanissement, un aplatissement sur une carte en deux dimensions. Mm-hmm. Donc souvent, le continent était rallongé ou le pays, ce qui donnait une surdimension à chacun des pays qui étaient près de l'équateur, entre autres. Donc, c'est un peu pour contredire ces données-là, données qui se veulent scientifiques, mais aussi ça implique les déplacements. On sait qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de migration mm-hmm. d'un pays vers l'autre. Donc, on peut saisir ça sur certaines cartes. Aussi, les marchandises qui sont transportées d'un pays ou d'un continent vers l'autre continent. Alors, il y a toutes sortes d'indications qui sont inclus dans ces collages-là, sur ces cartes. Il y en a, je crois, 14 cartes dans cette salle. Et si on passe à...
Mais ces cartes-là sont non seulement, ils suscitent vraiment toute une réflexion au passé et au présent, mais elles sont aussi d'une grande esthétique.
Oui,
c'est magnifique.
C'est très beau.
Moi, j'ai été absolument captivée par chacune des œuvres. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui tient de la magie, de la magnificence, oui.
Alors, si on passe
à... Oui, en terminant, juste pour ajouter là-dessus, il y a le petit point qui représente, bien sûr, Pierre, l'œil spirituel. Hein?
Le troisième œil.
Le troisième œil, voilà.
Mm-hmm. Alors, au deuxième étage, là, on trouve le grand format avec toujours ces beads-là qui, là, sont plus alignés en ligne droite ou plus ou moins droite, à la verticale ou à l'horizontale, qui, là, font référence au travail quotidien, au travail un peu rituel. Et en même temps, il y a une espèce de citation, de clin d'œil au up art et au pop art. Alors, il y a des références là, à l'histoire de l'art dans ces grandes compositions qui font presque 7 pieds de hauteur par 5 pieds de large. Ce sont vraiment de grands formats sous verre, avec toujours ces milliers, des dizaines de milliers de points collés les uns à côté des autres. D'ailleurs, il y a une équipe qui travaille avec elle. Elle ne pourrait pas suffire à coller.
J'imagine.
Tout ça. Je crois qu'il y a 10 femmes qui sont engagées par elle pour coller ces points-là, parce que ça ne finirait pas. Elle en aurait pour des dizaines d'années à coller ces milliers de points-là. Mais ce qu'il y a de très curieux, très énigmatique, c'est la sculpture qui est au centre de la salle. On voit deux mannequins de vitrine, dont une qui est laissée telle qu'elle et qui a un sein amputé, et une autre derrière elle qui est entièrement noire et qui est un peu la conscience de la femme, la mère en fait. Et devant cette mère-là, il y a un enfant, un petit garçon qui est sculpté de façon un peu brute en bois et qui porte un rondin dans sa main qu'il dirige vers sa mère en fait. Alors là, on peut faire une étude psychanalytique assez forte. Et elle a fait cette œuvre-là suite au fameux viol collectif qui s'est passé dans un bus où une jeune femme a été assaillie par une dizaine de jeunes hommes, et ça a fait la manchette à travers le monde, cette affreuse circonstance.
Il y a eu toute une mobilisation qui s'en est suivie.
Donc c'est suite à ça qu'elle a conçu cette œuvre-là, et pour elle, c'était de dire: comment se fait-il que des femmes peuvent engendrer des monstres? C'est la réflexion qui l'a amenée à faire cette sculpture-là.
Absolument.
Donc, au premier
étage... Très touchant.
Très touchant. Et très énigmatique aussi. Et au premier étage, ce sont d'autres collages et aussi des sculptures, parce qu'elle travaille en trois dimensions. Et là, ce sont des saris qui ont été trempés dans de la résine, donc qui sont rigidifiés et qui sont posés sur des colonnes en béton qui sont de format carré. Alors, j'ai demandé pourquoi ces colonnes très carrées par rapport à la souplesse des tissus de saris. Elle m'a répondu que c'était pour créer des contrastes entre la stabilité et l'instabilité. C'était le but.
Mais
juste
de poser la question, ça suscite une réflexion entre
tout à fait.
La souplesse et la rigidité des structures indiennes.
Oui, tout à fait, parce que évidemment, dans toute l'organisation sociale, avec les hiérarchies très, très fermées, les castes, en Inde, évidemment, il y a un côté très, très rigide là-dedans, que certains ont essayé de
peuvent interférer avec les aspirations du peuple indien, absolument.
De faire disparaître, oui. Mais oui. C'est tellement ancré dans la psyché, dans les habitudes, qu'on arrive difficilement à se défaire de ces castes-là.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce fameux sari, c'est que l'artiste, c'est en fait, c'est une présence humaine que représente ce sari-là. Alors ça, c'est intéressant, ça fait, Alex, cette... Alors, ça fait tout de suite surgir l'image de la présence humaine.
Et aussi, c'est très coloré, comparé au bloc de béton qui est d'un gris uniforme. Donc, il y a un autre contraste là-dedans, une binarité dans ces sculptures-là. Alors, si on traverse à l'autre édifice, on entre dans la grande salle où là, on voit un énorme cœur entièrement couvert en sorte de beads de divers couleurs, cœur avec tous les artères et les vaisseaux sanguins apparents. Ça fait sûrement 2 mètres de hauteur par 2,50 mètres de dimension à largeur. C'est très impressionnant comme
ça correspond à la grandeur réelle du fameux cœur dont on va parler à l'instant.
Oui, du cœur d'une baleine.
Oui, voilà.
Baleine. Alors, oui, on peut voir aussi le cœur de l'Inde.
Oui, aussi.
Une métaphore là-dedans, avec les différents règnes, puisque c'est entièrement vert, donc c'est la végétation, et des points rouges aussi qui font appel au sang humain et à l'émotion aussi. Donc il y a plusieurs couches, plusieurs lectures qu'on veut faire de ce cœur-là. Et si on traverse un petit corridor, on voit là une tête de femme qui est couchée.
Une femme très spéciale pour l'artiste.
Oui, tout à fait. Sur aussi une colonne carrée. Alors, c'est un hommage à sa mère. C'est la tête de sa mère qu'elle a moulée là aussi et qui est déposée sur des couches de cire. Il y a 3 couleurs. Rose à la base, un intermédiaire blanc et une couche supérieure bleue et le tout avec une plaque dorée, d'or, sur laquelle la tête semble, on dirait qu'elle rêve. C'est comme un rêve. Donc, c'est un hommage à sa mère décédée, une espèce d'épitaphe en fait, cette œuvre-là. Et dans la dernière salle, c'est-à-dire l'avant-dernière, là, il y a des escaliers de bois, des vieux escaliers qu'elle a achetés
Une installation qui a un énorme impact, je dirais.
Ainsi qu'une vitrine avec, d'un côté, c'est à recto verso, on voit encore là des circonvolutions de beads en forme de spirale, et de l'autre côté, c'est une épaisse couche de cire grise et la vitrine a été trouée, ce sont des trous de balles avec des taches rouges, donc on présume des assassinats ou des actes de violence. Donc d'un côté, j'interprète ça un peu comme la diffusion de l'amour ou de l'entre-gens chez les humains et de l'autre côté, mais les méfaits et les drames humains. Alors, les deux facettes, en fait, qu'on trouve dans les sociétés. Et les escaliers m'ont rappelé, parce que je suis déjà allée en Inde, Benares, où on voit ce qui s'appelle les ghats. Ce sont des escaliers, de grands escaliers qui mènent au fleuve le Gange, où les gens vont se baigner pour se sanctifier. Et les femmes étendent, après la sortie du Gange, leur sari sur ces marches. Et ça m'a rappelé vraiment ça, parce que les saris semblent séché là, sur les marches de ces escaliers.
Alors, toute une exposition, donc, me paraît avoir été très significative pour toi, Pierre. Il y a peut-être une autre œuvre aussi centrale qui est la sculpture
de la danseuse.
De la danseuse qui est absolument
magnifique.
Époustouflante, de beauté.
Elle est gigantesque, c'est très gracieux. Oui. Elle est entièrement noire et aussi un sari qui semble voltiger tout autour d'elle. Et elle porte une fourche à la main. J'ai pas trop saisi la symbolique de cette fourche-là, mais c'est une œuvre, magnifique. Et il y a au mur aussi une grande spirale de beads de couleur bleue qui est une invitation aux spectateurs de continuer cette œuvre collective.
Merci, Pierre, d'avoir fait avec nous le tour de cette exposition, vraiment, qu'on recommande fortement. Alors, Barticaire, point de départ, point qu'il y a DHCA, jusqu'au 9 septembre.